Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau Vendredi ou la vie locale. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au Chavanon. Le Chavanon prend sa source en Creuse, sur la commune de Crau, et après avoir traversé l'étang de la Ramade, cette rivière marque la limite entre les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Le 27 mai dernier, le contrat de progrès territorial Chavanon en action était officiellement signé et lancé. Il s'agit d'un programme d'action sur 5 ans dédié à la préservation de l'eau, des milieux et des usages sur le Chavanon. Ce programme est coordonné par le Parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin, évidemment. Pour en parler, nous recevons Sophie Catoire, chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Sophie, bonjour.
Bonjour.
Vous intervenez sur la préservation des milieux remarquables, notamment sur les zones humides. Nous recevons également Héloïse Leroux. Héloïse, bonjour.
Bonjour.
Héloïse, vous êtes chargée de mission eau et milieux aquatiques au Parc naturel régional de Mille Vaches et vous coordonnez le contrat de progrès territorial Chavanon en action. Et enfin, nous recevons Bastien Prévost. Bastien, bonjour.
Bonjour.
Bastien, vous êtes technicien rivière pour Haute-Corrèze Communauté. Haute-Corrèze Communauté intervient sur la préservation et la restauration des cours d'eau. On est réunis pour parler de ce contrat de progrès territorial intitulé Chavanon en action. Je le rappelle, un programme de 5 ans dédié à la préservation de l'eau, des milieux et des usages sur le Chavanon. Pour qu'on comprenne précisément de quoi on parle, pouvez-vous commencer par nous présenter le Chavanon, la rivière, le bassin versant et le territoire concerné par ce programme ?
Alors oui, le bassin versant du Chavanon, du coup, c'est 470 km² avec un peu plus de 900 km de cours d'eau. C'est ce qu'on appelle un territoire en tête de bassin versant. Donc c'est là où on retrouve les zones de source, qui est caractérisée par une densité de zones humides assez importante et des petits ruisseaux qui sont en général bien oxygénés, qui sont frais. Et donc qui accueille des espèces singulières comme la truite, l'écrevisse à pattes blanches ou la moule perlière. Mais du coup, depuis quelques années, on constate que malgré le fait qu'on soit en tête de bassin versant, il y a quand même des pressions sur ces milieux qui dégradent la qualité de l'eau.
Justement, je voulais en parler. Le Chavanon, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas épargné par la dégradation de la qualité de ses eaux et de ses milieux. 25% du territoire est classé en état écologique moyen, 75% en état écologique bon et 0% en très bon. Ça veut dire quoi ces chiffres exactement ?
Ça veut dire que du coup, on va dire qu'il y a un bon état écologique global du bassin. Mais il y a quand même des pressions qui font que la qualité de nos cours d'eau diminue, ce qui a un impact après donc, sur les habitats, la ressource en eau. Et du coup, le fait de diminuer la qualité de l'eau, ça impacte aussi sur l'aval. Nous, on est le premier maillon de la chaîne. Et du coup, si déjà la qualité de l'eau ici est mauvaise, encore plus en aval, il va y avoir de plus en plus de dégradation et donc une ressource en eau qui va être non qualitative pour le reste de la population.
Le contrat territorial Chavanon en action qui va donc avoir lieu de 2021 à 2025 fait suite à un précédent contrat qui s'est déroulé entre 2015 et 2019. Quel bilan vous faites du premier contrat et quels sont les objectifs du nouveau contrat ? Et enfin, troisième question, quels sont les points communs et les différences entre ces deux contrats ?
Alors, le bilan du premier contrat, il est plutôt positif, puisqu'on est, en parlant financièrement, on est à 87% de réalisation financière sur le prévisionnel qui avait été fait. C'est un contrat qui est positif dans le sens où c'était un peu un territoire orphelin, le bassin versant du Chavanon, et ça a permis de mettre en place une dynamique. Donc cette dynamique, c'est tous les porteurs de projets qui ont fait le succès du contrat. Et du coup, pourquoi on met un deuxième contrat en place, c'est que toutes les perturbations n'ont pas pu être résolues dans le cadre du premier contrat. Donc on continue sur 5 ans pour continuer ce qu'on a déjà commencé à faire avec les porteurs de projet, sachant que pratiquement tous les porteurs du projet du premier contrat ont signé le deuxième contrat. Donc ça, c'est aussi un point positif, c'est que la dynamique collective, elle est mise en place maintenant et du coup, on peut continuer à avancer tous ensemble. Et puis, donc pour revenir sur les points communs et les différences, tout ce qui va être travaux sur les cours d'eau, sur les zones humides. Donc ça, il y a une continuité qui va être faite. Et sur les aspects, on va dire, plus nouveautés, on a notamment sur l'aspect quantitatif, mais on pourra y revenir, mais voilà, c'est cet aspect quantitatif et prise en compte du changement climatique qu'il n'y avait pas forcément dans le premier contrat.
Vous avez expliqué que le territoire du Chavanon était un territoire orphelin, c'est-à-dire
C'est-à-dire que comme c'est à la marge entre deux régions, trois départements, quatre communautés de communes, en fait, il n'y avait pas de dynamique en place, mais c'était quand même un territoire qui était considéré comme territoire prioritaire pour l'agence de l'eau, parce que il contribuait à l'eutrophisation de la retenue de Bord-les-Orgues, mais il n'y avait pas de gestion des milieux aquatiques sur ce territoire-là, donc c'est pour ça qu'on dit ça, c'est un territoire orphelin, quoi.
On va s'intéresser maintenant à des actions et à des problématiques très concrètes qu'on trouve dans ce contrat territorial Chavanon en action. Un des premiers enjeux, c'est l'optimisation des systèmes d'assainissement. C'est quoi exactement l'enjeu de ce projet, de ce point ?
Alors l'enjeu de l'assainissement, c'est à la fois un enjeu d'assainissement collectif et non collectif. Et c'est vraiment sur le volet limitation des pollutions au cours d'eau. L'agence de l'eau, par exemple, sur le volet assainissement non collectif, ne finance pas normalement les mises aux normes, mais dans le cadre du contrat, on a eu une dérogation qui permet sur justement des projets collectifs, donc qui réunit plusieurs habitations, de pouvoir quand même mener une action avec une aide de l'agence de l'eau.
Durant le premier contrat qui a eu lieu entre 2015 et 2019, vous avez travaillé sur l'impact qu'ont les étangs sur le Chavanon. Différents projets ont été réfléchis, mis en place, à savoir supprimer ou aménager des étangs. Est-ce qu'on peut un peu discuter de ce point ? Moi, c'est un point qui m'a paru intéressant parce que je le trouve assez spectaculaire dans le sens où on voit directement l'impact du contrat sur le cours du Chavanon.
C'est vrai que les étangs, c'est on va dire une des particularités du territoire, hein, ils sont très nombreux sur notre réseau hydrographique, avec des dates de création qui sont diverses, hein, mais pour la plupart ont été créées dans les années 70-80. Donc aujourd'hui, on commence à accumuler un peu de connaissances sur l'impact de ces étangs sur le réseau hydrographique, sur les cours d'eau et ses habitants. Mais on connaît déjà, on va dire quelques grandes lignes, hein, sur les étangs, notamment sur l'impact sur la température de l'eau sur les cours d'eau. Donc Héloïse en parlait tout à l'heure, hein, où certaines espèces, hein, sur le réseau hydrographique du Chavanon sont des espèces qui sont sensibles à la température de l'eau, qui ont besoin d'une température d'eau fraîche. Donc le fait d'avoir ces étangs, on peut avoir un impact sur ces espèces-là. Et en plus de ça, bon, on peut avoir différents impacts, comme également le transit piscicole ou d'autres espèces comme les écrevisses qui peuvent être bloquées par des ouvrages qui sont installés pour permettre justement ces retenues d'eau.
Alors, tous les étangs sont-ils nuisibles ? Est-ce qu'on peut mettre tous les étangs dans un même paquet ?
Je dirais non, parce qu'aujourd'hui, hein, comme je vous le disais juste avant, on est plutôt sur une phase on va dire, d'acquisition de connaissances. On continue à les diagnostiquer, à mieux connaître leur fonctionnement, également leur rôle aussi parfois de réservoir de biodiversité. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu du cas par cas. Certains étangs peuvent avoir en fait des capacités intéressantes pour l'écologie, la faune, la flore. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est du cas par cas. Globalement, on voit qu'il y a quand même un impact, hein, sur la qualité de nos cours d'eau. Mais certains ne sont pas exclus, enfin sont peut-être à exclure de cette généralité et sont peut-être à étudier.
Un étang a été supprimé, un étang qu'on trouve sur le Chavanon. On peut prendre un peu cet exemple, à savoir comment techniquement on supprime un étang ou on l'aménage. Dans ce cas-ci, c'est une suppression. Ça se passe comment, techniquement ?
Déjà, on va dire, il faut avoir forcément l'aval des différents partenaires, du propriétaire, bien évidemment. Il faut que les enjeux sur cet étang soient on va dire peu suffisant pour permettre du coup un effacement complet. Alors techniquement, on va dire l'effacement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple parce que la nature reprend vite ses droits. Techniquement, ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est les aménagements, les mises aux normes de ces étangs avec des installations, des ouvrages hydrauliques qui doivent être maintenant, on va dire, suffisamment calés pour permettre un bon fonctionnement et une conformité par rapport à la réglementation en cours. Mais un effacement, c'est assez simple. Hein. C'est un démantèlement de la digue, des systèmes par exemple de vannage qui sont en place. Et donc après, il y a différentes précautions à prendre pour éviter l'impact sur le milieu, notamment à l'aval, éviter le départ de tout ce qui est matière en suspension qui pourrait être accumulée dans cet étang. Donc par exemple, pensez forcément à toute la quantité de sédiments fins qu'on appelle généralement de la vase. Donc voilà, il y a ces précautions-là à prendre. Après, c'est vrai qu'on a tout de suite, on le voit généralement, la nature reprend très vite ses droits et quelques années après effacement, c'est assez surprenant de voir à quel point le cours d'eau reprend sa sinuosité et ses différentes caractéristiques naturelles.
Et quand on parle d'aménager un étang, ça veut dire faire en sorte que l'étang ne soit plus un barrage, un obstacle à la faune ?
Alors, encore une fois, c'est du cas par cas. Enfin, on ne va pas installer des aménagements, on va dire, ultra sophistiqués pour des tout petits étangs. Mais l'idée, en effet, pour les plus impactants et pour sur les secteurs, on va dire, à grand enjeu, l'idée, c'est de le rendre franchissable pour la faune aquatique, mais également d'avoir des installations qui permettent de limiter son impact, notamment sur le réchauffement de l'eau, en installant, par exemple, un moine qui permet de capter l'eau du fond qui est plus fraîche que par exemple l'eau de surface.
En amont ou en aval des étangs, on trouve aussi régulièrement des zones humides et il se trouve que les zones humides sont au cœur de ce programme, de ce contrat de progrès territorial Chavanon en action. Sophie Catoire, je rappelle que vous êtes chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels et que vous intervenez sur la préservation des zones humides. Comment vous travaillez dans ce contrat, dans ce programme ?
Le conservatoire est maître d'ouvrage du contrat depuis le premier contrat territorial. On a pour ce premier contrat plutôt travaillé la question de l'acquisition foncière de zones humides, puisque c'est notre cœur de métier. Avant de pouvoir envisager des actions de préservation ou une quelconque intervention, le conservatoire a la nécessité d'avoir la maîtrise d'usage, donc qui passe soit par l'acquisition ou par l'établissement de partenariats avec les propriétaires, conventions ou bails. Le territoire du Chavanon, dans sa partie donc néo-Aquitaine, est un territoire où le Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine était pas présent en fait depuis sa création. On n'avait aucun site en gestion, en particulier sur ce territoire. Donc c'est un vrai travail déjà de se faire connaître, de faire connaître notre activité auprès aussi des propriétaires. Donc au cours du premier contrat, c'est vrai que l'enjeu a été surtout de contacter, de sensibiliser les propriétaires de zones humides qui étaient les plus remarquables. Sachant que le conservatoire a deux casquettes, on va dire. L'une, quand il intervient lui-même pour réaliser des travaux de restauration ou de préservation. Donc là, sur des zones humides qui n'ont plus de vocation agricole, ou qui n'en ont pas, par exemple des zones humides boisées. Et par contre, sur la partie zones humides qui ont une vocation agricole actuellement, le conservatoire anime une cellule d'assistance technique zones humides qui donc consiste à pouvoir proposer des diagnostics aux exploitants agricoles sur leur exploitation, sur les zones humides de leur exploitation, et formuler auprès d'eux des propositions de gestion pour améliorer la préservation et les fonctionnalités des zones humides.
Vous avez expliqué qu'il était important pour vous, le Conservatoire d'espaces naturels, de sensibiliser les propriétaires sur ces questions. Comment se passent les échanges ? C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent quand vous les rencontrez ?
Alors, en règle générale, les propriétaires que l'on peut avoir en contact sont plutôt curieux d'avoir plus de précisions sur qu'est-ce qu'une zone humide, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les politiques publiques. Après, ils sont curieux et souvent surpris de savoir que sur leur terrain, ils ont quelque chose qui a un intérêt au niveau de l'environnement. En tout cas, souvent, c'est qu'ils ne soupçonnaient pas vraiment l'importance des milieux que leur parcelle abrite. Voilà, après, certains propriétaires ont conscience de cet intérêt, mais trouvent l'opportunité de pouvoir vendre au conservatoire leur parcelle, justement pour que le conservatoire puisse, à moyen et long terme, préserver ses milieux. Et d'autres propriétaires se sentent plus investis, veulent garder cette propriété, mais par contre sont extrêmement motivés à pouvoir échanger avec le conservatoire sur comment aujourd'hui gérer leur parcelle pour atteindre ces objectifs de préservation.
Alors, une question toute bête, en quoi les zones humides sont-elles si importantes ?
Alors, les zones humides sont des milieux qui sont reconnus en fait pour trois fonctionnalités qui sont reconnus comme des services écosystémiques, c'est-à-dire que ce sont des services qui sont reconnus de rendre service aux besoins de l'homme. Donc, parmi ces trois services, il y a les fonctionnalités hydrologiques qui vont particulièrement nous intéresser dans le cadre du contrat Chavanon, à savoir au niveau de la quantité d'eau et de la qualité d'eau, puisque ça a l'avantage en fait de retenir l'eau en période d'étiage, de pouvoir relâcher l'eau qu'elle a emmagasinée en période hivernale quand il a plus plu. Et en période hivernale, quand il pleut beaucoup, ça permet en fait d'emmagasiner l'eau et du coup de réduire les quantités d'eau qui vont s'écouler plus en aval et donc préserver les territoires en aval des problématiques d'inondation. Enfin, en tout cas, y participer. Et puis sur la qualité de l'eau, donc ça c'est une deuxième fonction, c'est l'épuration. Les végétaux qui donc se développent au niveau des zones humides ont cette capacité de d'épurer en fait l'eau, soit en retenant les particules fines de sable, etc., ou d'autres particules organiques qui peuvent dégrader en fait la qualité de l'eau. Et la troisième fonction, qui nous intéresse aussi, nous, conservatoires, plus particulièrement, c'est la fonction de biodiversité, puisque les zones humides sont des milieux qui... par exemple, à l'échelle mondiale, représentent les 30% de la biodiversité. Donc ça vraiment apporte une biodiversité par les espèces que ça abrite, très importante. Et ça a aussi l'avantage de diversifier les milieux.
Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine anime une cellule d'assistance technique zone humide. Cette cellule d'assistance a été créée pour le contrat Chavanon en action. Elle existait déjà avant. Et à quoi elle sert ?
Alors, les cellules d'assistance technique zone humide, déjà pour un petit peu d'historique, c'est... on va dire des programmes qui ont été développés par les agences de l'eau depuis le début des années 2000. Grosso modo. En ex-Limousin, la cellule d'assistance technique a été développée à partir du début des années 2000 aussi, en 2005, essentiellement sur la Corrèze. Elle n'était pas développée sur la partie du contrat Chavanon, mais c'est à l'occasion en fait, du déploiement du contrat Chavanon qu'il y a eu une demande de la part des différents acteurs et des financeurs pour pouvoir proposer ce service sur le territoire. Et du coup, on a donc été sollicité et on a fait en sorte de pouvoir réaliser une animation également sur ce territoire. Les cellules d'assistance technique sont, en fait, c'est du temps d'animation. Donc, c'est des animateurs qui peuvent se rendre sur le terrain avec tout gestionnaire de zones humides. Donc, quand j'entends gestionnaire de zones humides, ça peut être un forestier qui a des boisements humides sur ses parcelles, un particulier qui a un petit étang avec une zone humide attenante, ou un exploitant agricole, ou une collectivité, ou une commune. Bon, voilà. En fait, les gestionnaires de zones humides, c'est tous les propriétaires ou les usagers. Et donc, ça consiste en de pouvoir réaliser, proposer gratuitement la réalisation d'un diagnostic écologique et fonctionnel de la zone humide, et de pouvoir échanger avec le gestionnaire sur son usage, les problématiques qui sont rencontrées, les atteintes qui ont pu être observées à l'occasion du diagnostic, et de pouvoir proposer des solutions à moyen ou long terme d'atténuer ces impacts qui auraient été observés. Donc ça ne se limite pas seulement à faire du conseil, ça propose aussi un accompagnement dans la réalisation de ces actions de préservation ou d'atténuation des impacts. Donc on peut accompagner techniquement les gestionnaires à pouvoir mettre en œuvre ces opérations.
Vous avez parlé de diagnostic. Un autre objectif du contrat Chavanon en action, c'est la restauration, l'entretien des cours d'eau et encore l'entretien des berges. Dans quel état se trouvent les berges du Chavanon ?
Alors, c'est vrai que nos cours d'eau sont réputés ont une réputation d'être très préservés. On est quand même soumis à quelques pressions qui sont liées tout simplement en fait à l'occupation du sol. Donc on est sur une région qui est très rurale où l'élevage bovin prédomine. Donc on aura des pressions qui sont liées à cette occupation du sol. Donc on va retrouver surtout en fait du piétinement bovin. Donc en fait c'est tout simplement les vaches qui divaguent dans le cours d'eau et donc qui piétinent les berges et qui remettent en suspension également tout ce qui est sédiments fins qui viennent après s'accumuler à l'aval. Et on a également du coup une destruction des habitats qui s'ajoutent à cette perturbation. Donc l'idée, les principales actions sur les cours d'eau, en tout cas dans ce qui nous concerne, Haute Corrèze Communauté, c'est de préserver ces berges face au piétinement bovin, tout en assurant l'activité agricole, en prévoyant par exemple des aménagements, des abreuvements pour les bêtes ou des franchissements de cours d'eau. Le principal levier à avoir, c'est l'acceptation aussi locale par rapport aux exploitants. Sur les premières années, c'est vrai que ça n'a pas été forcément évident de faire émerger des projets. Mais au fil des années, on a eu un effet boule de neige où les premiers exploitants ont commencé à faire ces projets-là. On en parlait à leurs voisins. On a eu un bon retour. Il y a une bonne communication également dans le cadre du contrat. Et donc à partir de là, aujourd'hui, on arrive à émerger des dizaines de projets par an, avoir quelque chose d'assez complet et assez diffus aussi sur le territoire. On a des projets, on va dire, plus ou moins grands d'envergure. Il y a les projets de mise en défense, donc c'est tout simplement de la pose de clôture pour limiter la divagation du bétail. Donc ça, c'est techniquement, c'est simple. Après, on a des projets qui deviennent un peu plus complexes, où l'objectif, c'est de renaturer totalement le cours d'eau, où en gros, le cours d'eau a été anciennement remanié, notamment dans le cadre du remembrement agricole. Et donc là, l'idée, c'est de redonner en fait toutes les caractéristiques naturelles au cours d'eau. Et donc là, forcément, on est sur des projets qui sont plus importants techniquement, également financièrement, où on reterrasse le cours d'eau, on rapporte des sédiments qui auraient dû être naturellement là. Donc là, forcément, on est sur des projets un peu plus conséquents.
Si on prend un petit peu de hauteur, le contrat de progrès territorial Chavanon en action, programme coordonné par le Parc naturel régional de Mille Vaches, c'est un programme qui regroupe 35 communes, 4 communautés de communes, 3 départements, 2 régions. On y trouve aussi de nombreuses associations, de nombreux syndicats, des entreprises privées. Héloïse Leroux, je rappelle que vous êtes chargée de mission eau et milieu aquatique au PNR Mille Vaches et que vous coordonnez notamment ce contrat de progrès territorial Chavanon en action. Comment on fait pour coordonner 35 communes, 4 Comcom, 3 départements, 2 régions, des associations, des syndicats, des entreprises privées ?
Alors déjà, le contrat, il est basé sur le volontariat. Donc, on n'oblige personne à signer le contrat et à faire des actions dans le cadre du contrat. Donc ça, c'est déjà un aspect qui aide, puisque c'est les porteurs de projets viennent déjà à nous avec des idées, avec des actions à faire. Et ensuite, nous, notre rôle de coordinateur, c'est justement de voir la cohérence entre les différents projets, de mettre en relation les différents porteurs de projets. Donc, on a des commissions thématiques pour ça. Donc, on a 6 commissions différentes qui permettent donc aux porteurs de projets, mais aussi à des partenaires extérieurs qui interviennent sur le territoire, qui n'ont pas souhaité entrer dans le contrat ou qui n'avaient pas d'action spécifique, mais qui sont quand même présents sur le territoire, de mettre en commun nos idées, de mettre en commun nos projets et d'avoir une mutualisation de moyens. Et donc, par exemple, sur l'aspect agricole, Bastien, il va pouvoir intervenir sur les clôtures et l'abreuvement. Mais par exemple, on peut imaginer que Sophie, il y a des zones humides sur aussi la parcelle agricole. Et elle va pouvoir, de concert avec Bastien, venir et faire un diagnostic sur ces zones humides. Donc, c'est l'intérêt du contrat, c'est vraiment ça, c'est d'avoir plusieurs partenaires qui peuvent intervenir sur des mêmes thématiques. Et du coup, nous, on est là pour justement mettre en lumière auprès des partenaires. Tiens, vous intervenez auprès des mêmes personnes, donc on peut faire une intervention collective.
Vous avez une vision globale comme un chef d'orchestre face à ces 130 musiciens.
Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il y a aussi l'aspect financier. On peut, sur certains projets, aider auprès des financeurs à aller porter certains projets et voilà, de voir comment on peut... Donc, il y a l'Agence de l'eau, mais il y a aussi les régions, les départements qui peuvent mettre des moyens sur certaines actions. Et donc, l'idée, c'est de voir comment nous, on peut aller chercher des financements auprès de ces financeurs-là dans le cadre du contrat.
Vous parlez de financement. L'ambition première du contrat de progrès territorial Chavanois en action, c'est une ambition écologique. Ce programme a... par la suite des retombées économiques locales. C'était prévu, vous vous y attendiez ? Et de quoi on parle quand on parle de retombées économiques locales ?
Alors effectivement, donc l'enjeu premier, c'était plus un aspect environnemental, mais du coup, en faisant le bilan du premier contrat, on s'est aperçu qu'en fait, ça avait eu aussi des retombées économiques dont on soupçonnait l'existence, mais on n'avait pas une idée chiffrée de ce que ça pouvait représenter. Et du coup, sur le bilan du premier contrat, c'est 2 millions d'euros pour le territoire, avec 70 prestataires environ qui ont participé au contrat. Donc, quand je dis des prestataires, c'est-à-dire que les techniciens rivières, par exemple, quand ils font des travaux, ils ont besoin de matériaux, ils vont avoir besoin de faire des études préalables. Donc, c'est ces entreprises-là qu'on appelle des prestataires locaux. Et il y en a à peu près 90% en fait, qui venaient du territoire, donc des 3 départements du bassin versant ou des départements mitoyens comme le Cantal, par exemple.
Alors, je le rappelle, hein, l'objectif premier, c'est un objectif environnemental. Le premier contrat s'est déroulé entre 2015 et 2019. Là, on part pour un second contrat entre 2021 et 2025. Au-delà de la préservation de la qualité de l'eau, de nouveaux enjeux liés à la ressource en eau apparaissent. C'est quoi les futures problématiques autour de l'eau sur le Chavanon ?
En faisant le bilan du premier contrat, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que la qualité comme enjeu, il y avait aussi la quantité, notamment liée au changement climatique. On s'aperçoit que l'été, il y a les étiages, donc c'est quand les niveaux d'eau sont les plus bas et que les débits les plus faibles, ils sont de plus en plus importants et de plus en plus longs. Et on a également de nombreux arrêtés sécheresse qui tombent chaque année en été. Et donc, dans ce nouveau contrat, on veut prendre en compte cette dimension quantité et pas uniquement la qualité comme on a pu le faire dans le premier contrat Chavanon.
Alors, si jamais en écoutant cette émission, je suis intéressé par le contrat Chavanon en action, qui je contacte ? Comment ? Et à qui je pose des questions ?
Alors, vous pouvez contacter le Parc naturel régional de Mille Vaches pour des questions globales sur le contrat. Après, au parc, on pourra vous redispatcher auprès des techniciens rivières, de la cellule assistance technique zone humide. Après, si vous savez déjà que c'est une intervention, ce qu'on appelle sur des travaux cours d'eau, ça va être plutôt les techniciens rivières. Donc là, ça sera plutôt les Comcom qui vont intervenir. Et puis sur les zones humides, donc le CN Nouvelle-Aquitaine ou le CN Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Mais il y a également, du coup, sur le côté Puy-de-Dôme, il y a le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. Et on a également au niveau agricole qui peuvent intervenir, les CIVAM, la DAPA, les chambres d'agriculture, voilà.
Héloïse Leroux, je rappelle que vous êtes chargée de mission eau et milieu aquatique au Parc naturel régional de Mille Vaches. Vous coordonnez le contrat de progrès territorial Chavanon en action dont on vient de parler. Bastien Prévost, vous êtes technicien rivière pour Haute-Corrèze Communauté. Haute-Corrèze Communauté intervient sur la préservation et la restauration des cours d'eau. Enfin, Sophie Catoire, vous êtes chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Vous intervenez sur la préservation des milieux remarquables, notamment sur les zones humides. Cet entretien arrive à son terme. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, aborder un sujet dont on n'aurait pas parlé ou préciser quelque chose ?
Peut-être que on va dire que c'est le bon moment d'en parler puisque actuellement, on va dire, on entame les projets de restauration de cours d'eau puisqu'on arrive en période estivale où c'est la meilleure période pour réaliser les travaux. Mais en parallèle de ça, en fait, on est en train de démarcher également les différents exploitants agricoles pour pouvoir réaliser d'autres projets dès l'année prochaine. Mais la conception se fait en fait dès maintenant jusqu'à l'automne prochain. Donc voilà, si on va dire des exploitants agricoles sont partants pour de telles installations, donc il y a la possibilité donc de contacter le parc naturel régional qui pourra aiguiller la personne en transmettant les coordonnées des techniciens rivières ou donc en contactant directement les communautés de communes concernées par le secteur.
Bah sur le même principe, pour en fait ça vaut pour toutes les thématiques, aussi bien zones humides, étangs, si les propriétaires veulent avoir des conseils, veulent mieux comprendre ce qu'ils ont à leur possession, faut pas hésiter à nous appeler et puis on en discutera. Et je rappelle du coup que toutes les actions, c'est sur la base du volontariat, donc nous, on n'obligera personne, même s'ils nous contactent, à faire quelque chose sur leur propriété.
Et de la même manière, même s'il y a une préconisation ou des conseils de gestion qui sont formulés, il n'y a pas d'obligation non plus de les mettre en œuvre. Voilà. Et on fera tout ce que l'on peut pour accompagner au mieux dans les démarches l'ensemble des propriétaires ou des gestionnaires qui le souhaiteraient.
Pas d'obligation, les maîtres mots, c'est accompagnement et volontariat. Merci à vous Sophie Catoire, Héloïse Leroux et Bastien Prévost d'être venus nous présenter ce renouvellement du contrat de progrès territorial Chavanon en action.
Merci.
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 Et voilà, c'était la fin du dernier Vendredi ou la vie locale de cette saison 2020-2021. Vous retrouverez votre rendez-vous du vendredi à partir de septembre, même heure 17h30 le vendredi et le samedi à 13h pour la rediffusion. Même fréquence, 88, 88.6, 92.3 et 103.1. D'ici là, passez un très bon mois de juillet et un très bon mois d'août. Bye bye.